Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Sainte Église n'est pas seulement notre mère, elle est une enseignante. Et on peut dire qu'elle nous fait effectuer aujourd'hui notre rentrée des classes. Il y a quelques mois, c'était celle des enfants qui ont repris le chemin de l'école, munis de livres neufs, de cahiers immaculés, de bonnes résolutions. Aujourd'hui, c'est notre tour. C'est la grande rentrée, celle de l'année liturgique. Et si cette comparaison vous surprend, il faut rappeler que la liturgie est à la fois une prière et une école. Évidemment, c'est d'abord une prière publique et solennelle, une louange à Dieu pour lui rendre le culte qui lui est dû, et en même temps, une intercession pour chacun de nos besoins. Mais la liturgie est aussi une école pour la bonne raison que, précisément, nous avons besoin d'apprendre à prier. Comme un petit enfant a besoin de sa mère pour lui désigner son père en disant « papa, papa » et lui apprendre ainsi à parler, de même, nous avons besoin de l'Église pour apprendre à parler au bon Dieu. Et c'est un long apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas seulement au bon Dieu avec les lèvres, mais surtout avec le cœur. L'Église veut que le culte extérieur rendu à Dieu soit beau, digne, harmonieux. Mais à travers les chants, à travers les formules liturgiques, à travers les rites, elle veut surtout façonner nos âmes et nous apprendre les attitudes intérieures qui nous rendent agréables à Dieu. Comment plaire à Dieu ? Bien sûr, en imitant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les lignes essentielles du cycle liturgique sont calquées sur le cycle de la vie de notre Sauveur. Et nous revivons chaque année les grandes étapes du salut qu'il est venu nous apporter par son incarnation, par sa nativité virginale, par sa vie cachée puis sa vie publique, sa prédication et surtout par sa passion, sa mort, sa résurrection et l'envoi qu'il nous a fait du Saint-Esprit. La prière liturgique est souverainement agréable à Dieu parce qu'elle nous fait participer au culte que Jésus-Christ lui-même rend à son Père. Et comme nous n'aurons jamais épuisé les richesses que contient son sacré cœur et qu'il distribue à travers ses mystères, nous pouvons sans nous lasser recommencer chaque année le cycle qui est d'un certain point de vue toujours le même, mais d'un autre point de vue toujours différent, parce que Dieu nous y attend personnellement, chacun d'entre nous, à chacune des étapes. Si donc nous faisons effort pour entrer dans la liturgie, pour hisser notre cœur au niveau des réalités qu'elle contient, pour hisser également notre intelligence, notre imagination, notre volonté, nos désirs, au niveau des vérités, des images et des sentiments dont l'Église veut nous nourrir, alors il n'y aura aucune routine dans notre vie de prière, mais un progrès constant, parce que, comme l'a dit Jésus lui-même, celui qui est initié à la doctrine du royaume des cieux est semblable à un homme maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Nova et vetera. Donc, la liturgie nous fait essentiellement revivre la vie de Jésus. Comme dit l'épître qu'on a entendu tout à l'heure, l'épître de saint Paul aux Romains, elle nous fait revêtir le Christ Jésus. Et pourtant, vous pourriez me dire qu'il y a dès aujourd'hui une grande exception, puisque l'Avent, le temps de l'Avent, ne nous fait pas directement participer à un mystère de la vie du Christ. Au contraire même, il veut nous replacer avant la venue de notre Sauveur. à l'époque où on l'attendait. Et ce ne sont pas les sentiments du Christ que nous sommes appelés à refaire vivre en nos cœurs, mais au contraire, l'attente du Sauveur, et surtout cette longue attente qui a duré plusieurs millénaires, depuis Adam et Ève jusqu'à Saint Jean-Baptiste. Alors on pourrait se demander, mais à quoi bon, puisque Jésus est venu ? Qu'il faille nous identifier au Christ, nous le comprenons très bien, puisqu'il est le Sauveur, et que nous ne pouvons bénéficier du salut qu'en y étant incorporés. Mais quel besoin y a-t-il d'aller nous replacer à l'époque où il n'était pas encore venu ? Pourquoi revenir à un temps qui est définitivement dépassé ? Pourtant, c'est bien ce que nous fait faire la liturgie durant ces 4 semaines de l'Avent. Eh bien, mes frères, la première chose à se dire, c'est que l'Église sait ce qu'elle fait. Elle veut nous faire revivre en accéléré ce que l'humanité a attendu pendant des millénaires, l'aspiration vers le Sauveur, et ça n'est pas facultatif. Si nous voulons profiter des grâces de Noël, nous devons faire cet effort. Nous devons nous replonger dans l'Ancien Testament et appeler le Messie avec les patriarches et les prophètes. Et pourquoi donc ? On peut au moins invoquer 2 raisons. D'abord, nous avons besoin de l'Ancien Testament pour bien comprendre le Nouveau, parce que la révélation de Dieu est progressive. Dieu ne pouvait pas tout nous dire à la fois, mais ce qu'il dit après n'annule pas ce qu'il a dit avant. Et souvent, au contraire, nous avons besoin de ce qui a été dit avant pour comprendre ce qui est dit après. La révélation de Dieu a d'abord été centrée sur la justice. Dieu a affiné le sens religieux du peuple hébreu. Et c'est seulement après qu'a pu être révélée la charité. Il faut nécessairement avoir l'un et l'autre pour pouvoir comprendre le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez peut-être qu'il y a eu à ce sujet une hérésie au début de l'Église, l'hérésie de Marcion. Marcion, un hérésiarque qui vivait au IIe siècle et qui avait développé l'idée que puisque Jésus était venu, on devait jeter à la poubelle tout l'Ancien Testament. On n'en a plus besoin, non seulement on n'en a plus besoin, mais c'est même mauvais. Donc plus d'Ancien Testament, l'Évangile nous suffit, le Nouveau Testament nous suffit. Et Marcion a été condamné par l'Église, très sévèrement, et malheureusement c'est quand même une hérésie qui renaît de temps en temps. On l'a vu réapparaître, par exemple, en Allemagne, chez des protestants allemands, sous le régime national-socialiste, ces protestants disaient « il faut éliminer l'Ancien Testament qui était juif, nous ne voulons pas de cette religion juive, gardons uniquement le Nouveau Testament ». À l'époque, un cardinal, le cardinal Faulhaber de Munich, avait prêché à Munich pendant l'Avent, justement, pendant les 4 dimanches de l'Avent, toute une série de sermons pour s'opposer à cette erreur, en rappelant les rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il avait d'ailleurs eu des problèmes avec le régime national-socialiste qui avait voulu l'empêcher d'éditer ses sermons. Mais il rappelait cette vérité importante, nous avons besoin de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau. Bien sûr, le Nouveau le dépasse, bien sûr, il ne s'agit pas de revenir dans le passé et de s'y enfermer, c'est Jésus-Christ qui nous apporte l'essentiel, mais pour comprendre ce que vient nous apporter Jésus-Christ, nous avons besoin de toute la préparation qu'il y a eu avant et des valeurs spirituelles, morales, sociales et de l'Ancien Testament. C'est donc la première raison. Et il y en a une autre, c'est que l'Ancien Testament manifeste la pédagogie du bon Dieu. Et cette pédagogie est toujours la même, c'est-à-dire le bon Dieu va agir avec nous, avec nos âmes, chacun d'entre nous, de la même façon qu'il a agi avec son peuple, le peuple élu. Et il va nous mener plus ou moins par des étapes analogues. Vous savez qu'il y a 3 venues de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu la venue historique, il y a plus de 2000 ans. Mais il y a, peut-être de façon encore plus importante pour chacun d'entre nous, sa venue dans nos âmes, qui va nous faire participer à sa venue historique. Et puis il y aura bien sûr, à la fin des temps, son retour pour venir juger les vivants et les morts. Et il y a forcément un rapport entre ces trois venues. Et la façon dont on a attendu la première dans l'Ancien Testament indique la façon dont on doit attendre les deux autres, et notamment dont nous devons attendre la grâce que Jésus-Christ nous délivre de façon progressive dans notre âme au fur et à mesure que nous correspondons à son plan. Et donc, pour avancer dans la vie spirituelle, nous avons besoin des leçons qui nous sont données par tous ces grands personnages de l'Ancien Testament. Et il est très important de profiter de ce temps de l'Avent pour rentrer dans l'esprit qu'ils avaient, l'esprit d'attente du Sauveur, attente de sa grâce. On peut repenser à quelques grands épisodes, je n'en mentionnerai que trois. On peut penser déjà à Adam. Adam, le premier des patriarches, à qui Dieu a fait la miséricorde d'annoncer que viendrait un sauveur juste après la chute. Imaginez l'état dans lequel il devait être en se rendant compte de la catastrophe qu'il avait enclenchée non seulement pour lui-même, mais pour toute l'humanité. Dieu a eu la bonté de venir lui annoncer encore de façon vague, mais quand même, il lui a annoncé que viendrait quelqu'un qui écraserait la tête du serpent. Et pour nous tous qui sommes pécheurs, nous devons, dès que nous avons le malheur de tomber dans le péché, repenser à cette annonce qui a été faite à Adam et nous aussi attendre notre Sauveur, attendre la grâce du bon Dieu comme on l'avait attendu dans tout l'Ancien Testament. Deuxième exemple, nous pouvons penser au prophète et à celui que la Sainte Église met particulièrement en avant pendant tout ce temps de l'Avent, qui est le prophète Isaïe. Isaïe, parce qu'il a peint avec des couleurs magnifiques toutes les richesses des temps messianiques. Et puis, surtout, bien sûr, nous pouvons essayer de nous unir à la plus pure des attentes, l'attente de la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée, qui, elle, n'attendait pas seulement, n'attendait pas comme Adam, quelqu'un qui viendrait la délivrer du péché. Elle en était déjà délivrée, elle avait déjà été préservée dès l'origine du péché. Son attente était toute pure, mais c'était une attente d'amour, de charité, pour avoir la joie de se réjouir du bien qu'allait faire tout le Messie, et puis de voir également son salut s'étendre à toutes les âmes qui en avaient besoin. Et il faut nous remettre dans cet état d'esprit d'Adam, des patriarches, Abraham, les prophètes, état d'esprit de Jean-Baptiste, et surtout état d'esprit de la très sainte Vierge Marie, un état d'esprit de désir pour nous préparer à recevoir les grâces de Noël. Rien de grand ne se fait sans une préparation. Pour pouvoir recevoir les grâces de Noël, il faut que notre cœur soit préparé. Et ce qui va nous y préparer, c'est le désir. Et il faut donc faire croître ce désir. Nous n'avons pas par nous-mêmes la possibilité de faire croître la grâce de Dieu. Elle est gratuite, elle vient du bon Dieu. Mais nous avons la possibilité d'être mieux préparés à la recevoir. Et nous en recevrons autant que nous sommes préparés à recevoir. Donc, creusons en nous ce désir qui nous permettra, en attendant, en demandant, en suppliant au bon Dieu de nous envoyer ses grâces, et pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent, pour notre pays, pour l'Église, si vraiment nous faisons de ce temps d'Avent un temps de supplication, un temps de désir, un temps de demande, à proportion des efforts que nous aurons faits, la fête de Noël sera vraiment une fête de grâce. Que la très sainte Vierge Marie Immaculée nous accorde tout cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.